C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Premier dossier ce matin, ça concerne bien sûr la chaleur, la canicule et les écoles. Et il y a certaines écoles qui étaient fermées hier, qui vont demeurer fermées aujourd'hui. D'autres écoles viennent s'ajouter, je pense au Saguenay. Il y a des écoles qui ont décidé de faire, me disent certains parents, de l'enseignement en ligne, plutôt que de demander aux jeunes de se présenter à l'école. Ce matin, dans vos quotidiens, vous avez des reportages, un professeur qui a des bâtons glacés, des élèves qui sont à l'extérieur, qui profitent un peu d'ombre et de fraîcheur pour, avec leur prof, se livrer à certaines activités. Donc, la question, quand il fait chaud, est-ce qu'on ferme les écoles? Toutes les écoles ne sont pas identiques. Toutes les écoles ont des enjeux de climatisation ou d'absence de climatisation, de ventilation mécanique. Et ce sont les directions d'école qui, ultimement, prennent les décisions. On va parler avec une directrice ce matin d'une école dans Côte-des-Neiges. L'école sera ouverte, mais il y a quand même des aménagements, puis il y a des notes envoyées aux parents, puis si les enfants ont trop chaud, on peut intervenir. Bref, on gère ça localement à la pièce. Mais j'ai beaucoup de messages de parents qui comprennent pas qu'on ferme une école parce qu'il fait chaud. Que c'est bien beau mettre les enfants dans la ouate, là, puis de les surprotéger. Puis comme disait une des collègues tantôt, avoir des parents hélicoptères là, qui veulent faire en sorte qu'il n'arrive rien aux enfants tout le temps. Là. Ben oui, la chaleur, ça fait partie maintenant de la réalité. Chaleur en septembre, puis probablement qu'au mois de mai l'année prochaine, puis à la fin des classes, en juin, on va avoir des enjeux similaires, c'est-à-dire des températures extrêmes. On va connaître ça plus souvent dans les prochaines années. Alors, est-ce que ça va prendre une certaine politique de gestion des écoles quand il fait chaud? Ce matin, il y a une école, ça a généré beaucoup de réactions, l'école Paul Arsenault, qui est à l'Assomption. Les parents ont reçu une note en disant que malgré ce qu'on laissait entendre dans un courriel précédent, ça vient du Centre de services scolaires des affluents, l'école sera fermée parce que les planchers sont glissants. Je le sais, là, les parents disent « Ouais, mais vous connaissez pas la réalité de notre école, puis c'est une école où il y a une climatisation partielle, il y a de la condensation, ça glisse, même les bureaux glissent. » Je comprends tout ça, là. Puis on le sait bien, si l'école était demeure ouverte puis que des enfants se seraient cassés la gueule, vous seriez le premier à dire que ça n'a pas d'allure. Avouez, là, qu'à sa face même, c'est un peu étonnant. On va se contenter de dire ça, là. De fermer une école parce que les planchers sont glissants. Je connais pas l'école. On me dit que c'est une école qui a été construite dans les années 90, un milieu humide. Mais c'est quand même là spécial. Là. Puis est-ce qu'on a d'autres écoles qui feront l'objet d'une fermeture pour toutes sortes de raisons qui peuvent à première vue paraître étranges? Ce que j'essaie de dire ce matin, c'est qu'il va falloir qu'on se questionne sur l'adaptation des écoles. Ça montre à quel point on a négligé, on n'a pas besoin d'avoir 22 exemples, là, les infrastructures scolaires au Québec, puis qu'on est en mode rattrapage, mais que ça donne des écoles, disons, qui font dur. Pour ce qui est de la météo, donc canicule, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je voyais ce matin Radio-Canada, 400 appels de plus à Urgence Santé. Ça veut dire aussi des centres de soins de longue durée. J'ai pas de données. Je sais qu'il y a des appareils de climatisation qui ont été installés. Est-ce que c'est le cas partout? Est-ce que les menus sont ajustés? Moi, il y a des préposés qui m'envoient des photos prises hier, là. Je comprends que les menus sont faits à l'avance, là. Mais sérieusement, c'est d'une lourdeur pour des températures aussi élevées. Surtout que c'est un endroit où la climatisation est absente. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans le centre de soins de longue durée où vous travaillez. Mais pour les personnes âgées vulnérables qui n'ont pas beaucoup d'options, pas possible de bouger tellement, ce sont des moments quand même difficiles. Puis là aussi, il va falloir qu'on fasse une certaine réflexion. Quand on parle de l'adaptation au changement climatique, c'est pas mal ce dont on parle. D'ailleurs, ce matin, document qui est rendu public par Copernicus, qui est un observatoire européen, et qui conclut que l'été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Ça veut dire juin, juillet, ou température élevée comme on n'a jamais vu. Et on pense que la tendance pour 2023 fera en sorte que ce sera l'année la plus chaude de l'histoire. Compte tenu de la chaleur en excès sur les océans, ces phénomènes extrêmes qu'on a vus de précipitations dans des endroits où c'est pas habituel, surtout en quantité aussi importante, des températures élevées pendant des semaines, il y a, et c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui dit que l'effondrement climatique est maintenant commencé. Et c'est pas d'être éco-anxieux, puis c'est pas de vouloir faire peur au monde, ce sont des réalités. En Espagne, il y a eu une sécheresse, canicule, et là, c'est remplacé par des pluies torrentielles. Des vagues de 4 mètres dans la région de Valence. Je pourrais vous donner un paquet d'exemples. Au Japon, des températures records, déficit de pluie. À New York, on le disait tantôt, c'est le US Open, mais hier, on avait des 95 degrés. Puis imaginez avec l'humidité ce que ça peut vouloir dire. Donc, le mois de septembre, il y a eu 3 journées consécutives avec des températures au-dessus de 90 degrés. Donc, des températures très élevées. Et ce sera, disons, des événements qui vont se répéter. Et je pense qu'on le voit pour les écoles, on le voit pour les centres de soins de longue durée. On va faire quoi? Lors des prochaines canicules qui vont probablement être devancées, c'est-à-dire septembre, c'est-à-dire le mois de mai, puis probablement le mois de juin également. Si on parle d'éducation, il y a plus de 1300 postes d'enseignants qui sont encore à pourvoir au Québec. Ce sont les chiffres fournis par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Le Journal de Montréal nous dit ce matin qu'en 5 mois, ce sont les chiffres les plus récents, il y a 20 profs qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour inconduite sexuelle. C'est très peu là, par rapport à la totalité des profs, mais quand même, c'est en augmentation, dit-on. Donc, des gestes à caractère sexuel qui ont fait en sorte que le permis d'enseignement a été révoqué, ou encore, tout simplement, qu'il y a eu des sanctions, pas de congédiement, là, mais des sanctions pour ces crimes de nature sexuelle. Et puisqu'on parle des écoles, je tiens à vous rappeler que Montréal va faire des aménagements. Hier, c'était la rentrée pour les parents. Là, l'école, ça continue, donc la conduite raisonnable et prudente autour des écoles est toujours de mise. Et là, on va équiper certains élèves d'un sac à dos qui va indiquer la vitesse des automobilistes. Tout ça pour les inviter à ralentir. C'est très bien, là, c'est faire de la prévention, merveilleux. Mais on s'entend que ça prend beaucoup plus que ça pour amener les gens à ralentir. Les cas de comportement dangereux, même en ville, je pense que vous en êtes tous témoins au quotidien. Des gens qui dépassent à droite, même en ville. Des gens qui roulent trop vite dans beaucoup de secteurs. Banque du Canada qui va rendre public aujourd'hui sa décision concernant le taux directeur. Vous avez un paquet d'économistes qui ont été sondés. Et la plupart, je dirais la forte majorité, estime que la Banque du Canada devrait rester au neutre. Pas de nouvelle augmentation, pas de baisse. Pas de baisse, tout le monde s'entend là-dessus. On n'est pas encore dans la cible du fameux 2% d'inflation qui est recherché. Les premiers ministres de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont demandé à la Banque du Canada de baisser le taux pour permettre aux citoyens de souffler. On le sait avec les hypothèques, ce sont des paiements additionnels ou encore on étale dans le temps le remboursement. Et vous aviez la semaine dernière, selon des chiffres de certaines grandes banques, 20% des gens qui ont un prêt hypothécaire où le prêt représente plus que la valeur de leur propriété, ce qui est quand même pas mal. Donc, les deux premiers ministres disent ça. M. Legault, hier, a dit « Je me mêle pas de la décision de la Banque du Canada. Je respecte l'indépendance de la banque. » C'est clair que la Banque du Canada prend la décision sans trop d'ingérence politique. Je dis pas que la banque entend pas, mais habituellement, ce sont des experts qui regardent ça, puis on peut les contester, là. On a le droit, là. Puis on peut trouver que ça a pris du temps avant qu'ils décident d'augmenter les taux d'intérêt. Tout ça est pas une science précise, là. Mais c'est la position de Québec. Et la position de Québec aussi, vous allez le voir ce matin, c'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui prépare sa mise à jour économique, qui dit là aux Québécois, contrairement à ce que prétend l'opposition, Vous avez eu des cadeaux depuis que la CAQ est au pouvoir. Les taxes solaires ont baissé. On vous a fait des chèques. On a fait des ajustements pour les tables d'impôt. Il y a une série de mesures, par exemple, pour les parents qui ont des enfants. Alors, tout ça nous amène à ne pas faire de cadeaux supplémentaires cette année, pas de chèques, parce que ça va nourrir l'inflation. Voici ce que Éric Girard disait il y a à peu près un an de ça.
Il y a 4,6 millions de Québécois qui vont recevoir 600 $ qui ont gagné moins de 50 000 $ en 2021. Et c'est pour ça que je tiens à dire que ces gens-là ont des besoins essentiels. Logement, habitation, transport, vêtements. On vient aider des gens qui en ont besoin. Là. C'est pas du superflu. Là. La hausse du coût de l'épicerie, c'est réel. Là.
Je dirais que la hausse du coût de l'épicerie est encore réelle aujourd'hui. Je vous dirais que les coûts pour le logement sont encore très élevés. Je rappelle aussi que l'an passé, là, c'est un engagement pris durant la campagne électorale. L'image est assez simple. Vous nous réalisez et on vous envoie un chèque. Et ça a été confirmé plus tard. Là, je sais, on va me dire, ouais, mais là, c'est différent. Puis il y avait une urgence d'adaptation l'an passé. Puis là, ben les gens ont à vivre peut-être des mois plus difficiles. Mais le ministre, dans une entrevue à la presse, est assez clair. Il n'y aura pas de chèque, il n'y aura pas d'allègements fiscaux dans les prochains mois. Il y aura des mesures parce qu'il y a trois phénomènes et ça touche l'univers municipal. L'itinérance, le logement et les montants demandés pour les changements climatiques. Je regardais les chiffres concernant le logement. Depuis 2018, la CAQ dit avoir investi, là, le gouvernement, pas loin de 4 milliards. Puis il est prêt à faire plus. Québec, selon leurs chiffres, là, a financé 22 500 logements. Sur les 22 500, il y en a 6 500 qui sont réalisés. 7 000 qui sont en train d'être faits, puis 9 000 qu'on est en train d'élaborer. Alors, je sais que à Québec, on met le dos sur les municipalités, la faute sur le dos des municipalités en disant « c'est votre responsabilité, puis ça traîne, puis c'est compliqué vos affaires ». On peut mettre ça aussi dans la cour des promoteurs. Est-ce que les projets qui sont développés sont des logements qui répondent véritablement à des besoins? Donc, de grands logements, par exemple. Mais je suis pas certain que, surtout à Montréal, on le sait, là, la capacité de l'administration de compter là, pour se donner, se bomber le torse avec des chiffres. Là, voici le nombre de portes, voici le nombre de serrures, puis voici le nombre de toits. Puis même si c'est construit ou pas, on rentre ça dans le bilan, puis on a l'air bien fin. Mais il y a des enjeux importants. D'ailleurs, parler d'éducation tantôt, il y a un article dans le journal Le Monde ce matin où les étudiants français découvrent nos logements chers dans des sous-sols sombres, humides, pas éclairés. Et des jeunes qui débarquent, qui viennent étudier, puis on le sait, là, c'est quoi? C'est 800 000 étudiants étrangers à travers le Canada. C'est en hausse permanente. Ça permet de remplir les coffres des cégeps puis des universités. Et là, au Québec, les étudiants français en galère de logement. Et pour les Français, ça coûte pas cher, les frais de scolarité. Mais pour les étudiants étrangers, on le sait, ce sont des montants qui sont évidemment très élevés. Et puisqu'on parle d'immigration, il y a des chiffres ce matin concernant ce qu'on appelle les résidents temporaires. Puis quand je dis il y a des chiffres, là, on sait pas combien de personnes ont un permis de résidence temporaire et de gens qui travaillent. Selon certaines sources de Statistique Canada, c'est 1 million. Puis selon d'autres sources fédérales, ce serait 1 600 000. On n'a pas de portrait juste ici de la main-d'œuvre. Et pourtant, c'est majeur quand vient le temps de faire des prévisions et de, par exemple, mesurer la crise du logement. Quand vous avez autant d'étudiants étrangers, autant de résidents temporaires, de travailleurs temporaires, des gens qui viennent ici en résidence, réfugiés, bref, des gens qui ont besoin de logement, ben ça met de la pression, puis on s'en rend compte. D'autre part, dans le Globe and Mail ce matin, vous vous rappelez quand les États ont signé des ententes avec les fabricants de vaccins durant la COVID, principalement Pfizer, Johnson & Johnson, tout ça était frappé d'un secret. On n'a jamais su combien le gouvernement canadien a payé pour obtenir les vaccins, pour sécuriser les doses pour les Canadiens. En Afrique du Sud, ils ont fait un procès pour savoir exactement quel était le prix payé. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que les manufacturiers, les fabricants de vaccins ont profité de la crise, notamment dans les pays africains, l'Afrique du Sud inclus, mais dans d'autres pays africains, de ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, pour charger nettement plus cher. Et je vous donne quelques exemples. On a découvert que Pfizer, qui vendait son vaccin 10 $ américains la dose, c'était un prix 32% plus élevé que ce que les Américains payaient. Donc, dans certains pays, là, non seulement vous allez faire un méga dépôt, vous allez payer plus cher, on a le droit de pas vous fournir, on a le droit de prendre des stocks qu'on vous a déjà livrés pour les envoyer ailleurs. Les pharmas se sont remplis les poches, c'était prévisible, et le prix était très variable selon la région où c'était commandé, premièrement. Et deuxièmement, comment ça se fait qu'on n'a pas de détails ici? Comment ça se fait qu'on ne sait pas exactement combien ça a coûté et surtout quel est le prix payé puis comment on a négocié? C'est toujours le même argument, là, des raisons commerciales. Et puisqu'on parle de la COVID dans Le Devoir ce matin, on raconte les difficultés qu'ont des gens qui veulent porter le masque. Je disais hier que la COVID est de retour, on connaît tous quelqu'un qui a testé positif ou qui a des symptômes. Bon. Et on raconte l'histoire d'une jeune fille qui avait été embauchée dans un restaurant puis qui, elle, veut porter le masque. Et son patron lui a dit non. Et selon le Code du travail, quand c'est pas imposé par Québec, par exemple, on le sait dans le milieu de la santé, vous devez porter le masque, ben un employeur peut refuser à quelqu'un qui, pour toutes sortes de raisons, ça peut être des raisons de santé, ça peut être des raisons là, très personnelles, de porter le masque en milieu de travail. Et je reviendrai aussi tantôt sur les investissements annoncés. Encore une fois, c'est mystérieux. Québec va mettre 150 millions dans l'usine là pour alimenter les voitures électriques avec des pièces faites par cette usine de Corée du Sud avec... Quoi, c'est 750 millions d'investissements, 150 millions de Québec. Le fédéral, on ne sait pas trop, là, c'est pas encore attaché. Mais on peut dire que grosso modo, là, ces grosses entreprises qui viennent au Québec investir, puis là, on va nous dire, ouais, mais il y a des retombées, puis c'est payant, c'est du financement à 50% et plus par les deniers publics. Québec, pas différent des autres, mais on peut pas mal, je pense, se questionner là-dessus. Rapidement, en terminant, j'attire votre attention sur l'ouverture du procès des deux organisateurs du Convoi de la Liberté. Et on a dit au procès, c'est pas la cause politique qui nous intéresse, mais quels sont les gestes qui ont été posés par Tamara Lynch et Chris Barber lors de ces événements, donc entraves, désordre public. C'est ce qui fait l'objet de ce procès. Puis je rappelle qu'aux États-Unis, un des leaders de l'organisation d'extrême droite Proud Boys a été condamné à 22 ans de prison. C'est la sentence la plus importante. On les voit, là, c'est 18 ans, 15 ans, les principaux leaders de cette contestation, de ce mouvement de prise de contrôle du Capitole le 6 janvier.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On attend évidemment avec impatience la décision de la Banque du Canada aujourd'hui pour le taux directeur, ce qui va fixer les taux d'intérêt. La plupart des économistes pensent que les taux actuels vont demeurer. Ce ne sera pas de baisse, peut-être pas de hausse non plus, en tout cas pour l'instant. Le premier ministre Legault a refusé hier de prendre position. Il ne veut pas influencer la décision de la Banque du Canada. Et le ministre des Finances, Éric Girard, nous dit en gros qu'il faut laisser la politique monétaire canadienne faire son effet sur l'inflation et avertit les Québécois qu'il n'y aura pas de cadeaux fiscaux cette année ou de chèques. Il est avec nous ce matin. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour.
La première question concerne la décision de la Banque du Canada. Quand on veut pas l'influencer, c'est parce qu'on n'a pas d'influence ou on est satisfait de la direction prise par la Banque du Canada?
Bon. D'abord, on a des institutions au Canada, puis vous savez, par exemple, on peut pas dire à un juge quoi faire, puis on peut pas dire au gouverneur de la Banque centrale quoi faire non plus. Alors, la Banque centrale est indépendante, ils ont des économistes chevronnés, on peut commenter sur ce qu'ils font certainement, Mais aujourd'hui, le consensus, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de taux. C'est ce qui est anticipé par les marchés financiers. Et la politique monétaire fonctionne. L'inflation était à 8 % l'an dernier. Elle est à 4 % présentement. Elle devrait atteindre 3 % à la fin de 2023 et 2 % à la fin de 2024. Alors, il faut respecter l'indépendance de la Banque du Canada. La politique monétaire fonctionne.
OK. Donc, les deux autres premiers ministres, c'est du vent politique qu'ils font, là.
Ben, écoutez, pas à moi de dire aux autres premiers ministres comment faire leur travail, mais je peux vous dire que c'est contre-productif d'essayer de dire à la Banque du Canada quoi faire. Ils font leurs analyses. C'est un travail... J'ai déjà travaillé, là. C'est un travail qui est très méticuleux. On regarde un ensemble d'indicateurs, les tendances, la trajectoire. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'économie ralentit. On vient d'avoir un deuxième trimestre au Canada négatif. Et l'économie ralentit, l'inflation baisse. Donc, la politique monétaire est suffisamment restrictive. Puis, si l'inflation continue à baisser, ça permettra d'avoir des baisses de taux peut-être à la mi-année en 2024.
OK. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui ont une hypothèque, là, et dans certains cas, je voyais l'étude la semaine dernière, 20% des gens qui ont des hypothèques, c'est plus que la valeur de leur propriété. Donc, des taux qui montent, des paiements qui augmentent ou des périodes de remboursement qui s'étirent. Là. Ils sont prêts à gorge, c'est à part l'épicerie puis c'est à part le reste. Là.
Mais c'est extrêmement difficile présentement. Là. Les conditions, l'inflation demeure à 4 % mais l'élément qui est le plus important, c'est que les taux d'intérêt, le taux directeur qui était à 0,5 % au début de 2022 est maintenant à 5 %. Donc, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce que je dis aux gens qui ont des difficultés avec leur paiement hypothécaire? C'est ça votre question. Mais parlez à votre institution financière et faites des aménagements, rééchelonnez vos paiements, assurez-vous de rencontrer vos obligations. Puis vous avez pris un contrat avec une institution financière, parlez à votre institution financière.
Puis ce que vous me dites, dans le fond, c'est qu'il n'y aura pas de mouvement vers la baisse avant l'an prochain.
Non.
OK.
Non.
Il n'y aura pas de cadeau cette année, pas de chèque, pas de dépôt direct, pas de surprise fiscale dans votre mise à jour. Là, vous avez assez donné.
Mais j'ai expliqué d'abord deux choses. On a des mesures qui sont en vigueur présentement. La baisse d'impôts, les déductions à la source ont commencé au mois de juillet. Et puis ça, c'est une mesure pour le long terme. Encourager l'offre de travail, stimuler l'économie, plafonnement des tarifs pour 4 ans, le 2000 $ pour les aînés vulnérables. C'est une mesure qui est permanente. Ces mesures-là sont en vigueur. Elles sont généreuses, mais les conditions pour les gens sont extrêmement difficiles présentement. Pour les chèques, là, parce que je vous ai entendu ce matin, puis je suis pas d'accord avec vous du tout, je veux réexpliquer.
Pas d'élection, pas de chèque.
Laissez-moi expliquer. Nous, on estime que les besoins essentiels d'un adulte annuel, là, logement, vêtements, transport, alimentation, ça correspond à 25 000 $ par année. En 2022, l'indexation du régime fiscal était de 2,7 %. L'inflation a été de 6,5. D'où la nécessité d'une compensation d'à peu près 4 % sur 25 000 $. En 2023, l'indexation du régime fiscal, qui est basée sur l'inflation de 2022, est à 6,4 %. L'inflation sera en moyenne de 3,5 %. Donc, c'est l'indexation du régime fiscal qui aide les gens avec leurs besoins essentiels. Donc, il n'y a pas besoin de chèque.
OK. Mettons que je le prends autrement.
Allez-y.
L'augmentation, le taux d'inflation, c'est une chose. Ce que les gens payent, par exemple, à l'épicerie, ce qu'ils payent en logement, c'est souvent nettement supérieur à ça. Autrement dit, la facture réelle pour les Québécois dans le secteur... Je prends deux secteurs là qui sont majeurs, là. La facture d'épicerie et le logement, ça leur coûte souvent plus que 6-7 % par année en termes d'augmentation. Mais
l'inflation dans l'alimentation présentement au Canada, c'est 9 %. Vous avez raison.
Bon, alors, ce que j'ai soulevé ce matin, c'est que l'an passé, il y avait une élection. M. Legault a dit, je vous promets un chèque si on revient au pouvoir. Vous faites votre mise à jour, vous donnez un chèque. Et vous avez dit à l'époque, ces gens-là en ont besoin, c'est difficile pour eux, il faut les aider. Je dis pas que les mesures fiscales sont pas toujours actives. Mais c'est plus facile quand il n'y a pas une élection en vue de dire, ben là, cette année, malheureusement, il n'y aura pas de chèque. Quand il y a une élection, on a le chèque qui est un peu plus facile, en vous et moi.
Ben, je veux dire, notre argumentaire n'est pas du tout dans le même espace.
Non,
moi, je vous dis que c'est mathématique, que l'indexation du régime fiscal en 2022 était à 2,7 % puis que l'inflation était à 6,5 %, d'où la nécessité de compenser 1 000 $ sur des biens essentiels. de 25 000 $ et que cette année, l'indexation du régime fiscal est à 6,4% et que l'inflation sera 3,5%. Donc, c'est pas nécessaire d'amener les chèques. Mais c'est mathématique.
Mais
c'est
mon logement me coûte 10% de plus.
Nous sommes des économistes,
que mon
on fait un travail, on est là pour aider les gens.
Non, non, vous êtes un politicien aussi.
Je suis élu, j'ai des responsabilités de fiduciaire, d'intendance des finances publiques, je prends ça très au sérieux. L'an dernier, le régime fiscal ne compensait pas pour la hausse de l'inflation en 2022. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas anticipé la guerre en Ukraine et on n'avait pas anticipé la politique zéro COVID en Chine. Ces deux facteurs-là.
Mais là, l'an passé, je me souviens que vos adversaires disaient que vous étiez en train de nourrir l'inflation, que de donner de l'argent...
Oui, on a quantifié ça, je l'ai dit. La baisse d'impôts, ça a un impact de 0,1 sur l'inflation. On l'a dit, ça. On le fait. C'est la baisse d'impôts, son impact, 0,3% de façon permanente sur l'économie. Le PIB potentiel de l'économie du Québec est augmenté de 0,3 par la baisse d'impôts. L'inflation, 0,1.
On a deux visions, c'est correct. On est là pour en discuter.
Exactement.
Bon, l'autre point important. Vous avez dit, il y a trois priorités qui demeurent, là, en termes, et ça vise les municipalités, l'itinérance, le logement.
Mais ça vise les municipalités, ça vise tout le monde.
Oui, mais disons que les itinérants sont dans les villes, puis les villes sont pas équipées, le logement, les villes gueulent après Québec, puis l'environnement, ils vous demandent 1 milliard. Fait que les villes, on sent que c'est trois priorités qui touchent directement les villes, là.
Je suis d'accord, mais ça touche tout le monde. Okay. Là. Ça touche pensez-vous que le ministère de la Santé est pas concerné par l'itinérance?
Non, je suis d'accord.
Moi, je suis concerné,
mais
vous êtes concerné.
Vous allez mettre de l'argent dans ces trois priorités-là.
Moi, ce que j'ai dit hier à la table éditoriale de la presse, là, c'est que nous, notre rôle d'intendance puis de fiduciaire, c'est que tout le monde nous demande de l'argent. Okay? Mes collègues, la société civile, les entreprises, les syndicats, les municipalités. Nous, notre rôle d'intendance et de fiduciaire, c'est d'ordonner les priorités. Ce que j'ai dit, c'est que dans tout ce que j'entends, là, ces trois priorités-là reviennent souvent.
OK.
D'ailleurs, on a eu des feux de forêt l'été dernier. Là. Je pense que tout le monde...
J'essaie de suivre, parce que là, j'entends des déclarations de vos collègues, puis je veux savoir où le gouvernement se situe. Là. Votre collègue, M. Fitzgibbon, a dit qu'il fallait idéalement, on comprend là, que c'est l'idéal, réduire de moitié le parc automobile. Êtes-vous d'accord avec ça?
Ben, Pierre, il a son style. Là. Je pense que...
Il l'a dit devant moi, là, fait que je me trompe pas dans
non,
la
non,
citation.
Non, j'ai pas dit où il se trompait. J'ai dit, il a son style.
Oui.
Ce qu'il a voulu dire, c'est qu'on va devoir changer nos comportements. Okay. Si tout le monde qui a deux voitures dans son entrée aujourd'hui, dans 5 ans, il a remplacé ses deux voitures à essence par deux voitures électriques, puis qu'on a le même nombre de voitures sur la route, puis qu'on a les mêmes bouchons de circulation. C'est pas plus agréable un bouchon de circulation en voiture électrique qu'en voiture essence. Alors, ce qu'il voulait dire, ou ce que là où je suis totalement d'accord avec lui...
Ce que vous aimeriez qu'il dise?
Non, c'est pas ça. C'est qu'éventuellement, il va falloir changer nos comportements.
Mais alors,
c'est une responsabilité.
Comment on change? Il y a vos collègues qui disent qu'il faut regarder différentes options. Comme par exemple, taxer au kilométrage, avoir des frais d'immatriculation plus élevé pour certains véhicules, peut-être moins élevé pour d'autres. L'approche bâton-carotte.
Oui.
La carotte, ça peut marcher, mais des fois, ça prend le bâton aussi, non?
Bien, c'est-à-dire que nous, là, on a une ligne directrice depuis 2018. Réduire le fardeau fiscal des contribuables. Alors, c'est bien certain que dans le contexte actuel, là, arriver avec des taxes supplémentaires, ça, c'est vraiment pas le moment.
Mme Guilbeault, elle pense que ça serait une bonne idée, peut-être, au kilométrage.
Mme Guilbeault, elle réfléchit, elle regarde les options, je la connais, elle fait son travail minutieusement. Nous, la ligne directrice, c'est réduire le fardeau fiscal. Lorsque, moi, je suis un économiste, je vous dis que si vous modifiez les prix relatifs, ça peut changer les comportements. Alors, par exemple, s'il n'y avait pas de droit d'immatriculation sur les petites cylindrées, mais peut-être qu'il y aurait plus de petites cylindrées qu'il y en a aujourd'hui.
OK, ça, c'est une des approches que vous regardez.
Toutes les choses que vous avez nommées, là, il y a plein de gens qui regardent ça. Moi, je vous dis la ligne directrice.
OK.
Réduire le fardeau fiscal, et c'est vraiment pas le moment d'arriver avec des mesures de taxation additionnelle.
OK. Le logement.
Oui.
Vous dépensez combien par année en logement là, pour soutenir des programmes, pour construire des logements au Québec?
J'ai pas ce...
Mais à peu près, là. Un ordre de grandeur.
En nouvel argent.
Ouais.
Depuis que nous sommes élus, nous avons mis 3,8 milliards, on pourrait dire, sur 5 ans. OK. 3 milliards dans le premier mandat, 1 milliard au dernier budget.
OK. Ça devait donner combien de logements?
22 500.
OK. Est-ce que ces logements-là ont été construits? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent dedans?
Je vais vous décliner le 22 500. Il y en a 6 500 qui sont construits. Il y en a 5 000 qui sont en construction. Il y en a 9 000 qui sont en élaboration.
Ça veut dire le tiers qu'on est en train d'élaborer à peu près.
C'est ça. Et ce que nous devons tous faire avant de mettre du nouvel argent, c'est accélérer la réalisation du 9 000 qui est en élaboration.
Comment ça se fait qu'il y en a le tiers qu'on cogite ou qu'on attend les permis et qu'on est en train d'élaborer les programmes?
Il y en a qui sont des annonces récentes. Parce que, par exemple, les annonces du dernier budget, c'est normal qu'elles soient en élaboration présentement. Alors, il y avait plus de 5 000 logements au dernier budget. Alors, c'est normal que celle-là soit en élaboration. Si, dans les 9 000 en élaboration, il y a des unités d'accès logis qui datent de 2012-2014, ça, c'est pas normal.
OK. Peut-être que vous allez interpréter les propos d'une de vos collègues encore, là, à l'habitation, qui dit que les villes se traînent les pieds puis qu'il y a des programmes, finalement, qui font en sorte que ça prend du temps avant de pouvoir construire. Êtes-vous d'accord avec ça, que les villes font que ça tarde?
Vous êtes beaucoup sur ce que mes collègues ont dit ce matin, mais je vais vous dire comment j'interprète ça.
C'est comme le Conseil des ministres. Oui. Vous m'avez dit tantôt, ils vont tous broyer à votre porte pour avoir de l'argent. Moi, j'essaie de traduire.
C'est comme ça que j'ai dit ça, mais ça vous laisse résumer ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, là, puis ça fait plusieurs fois qu'on se parle dans les 5 dernières années, là, plus il y a de parties prenantes dans un dossier,
plus c'est long.
Alors, dans le logement, il y a le fédéral, le provincial, le municipal, des organismes sans but lucratif, le privé. C'est compliqué. Donc, on a tous une responsabilité, pas juste les municipalités, le gouvernement du Québec aussi. On a tous une responsabilité de faire mieux plus vite.
OK, mais justement, mis à part le fait de signer un chèque, là, quelles sont les mesures prises pour que ça aille plus vite? Moi, j'en entends pas. Là. Peut-être que
je vais vous en donner une, par exemple. OK, le fédéral.
Oui.
OK, ils annoncent un fonds. L'adjectif est intéressant. Le fonds pour l'accélération de la croissance des logements.
Okay.
Je souligne le mot accélération.
Okay.
Budget 2022. En juin 2023, le fonds est créé à la SCHL. La SCHL met un paquet de conditions. Nous, on regarde ça, on peut pas utiliser les fonds. Dans les conditions ont été données pour un marché immobilier qui n'existe pas. Okay, les restrictions pour les montants par unité, on a besoin de beaucoup plus d'argent que ça par unité. Autrement dit, il faut faire moins d'unités avec le montant qu'ils accordent. Et donc, il faut que la SCHL lève ses conditions pour que nous, on puisse faire travailler 2 $ à chaque fois qu'on dépense 1 $, c'est-à-dire 1 $ du fédéral, 1 $ de Québec, 2 $ d'efficacité, puis oui, on donnera le crédit au fédéral en temps et lieu quand ça sera fait, mais on n'a pas besoin des conditions de la SCHL dans une juridiction.
Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le fonds d'accélération n'a pas accéléré grand-chose.
Le fonds d'accélération n'a pas les caractéristiques d'un accélérateur.
OK.
Mais je l'ai dit à Mme Freeland, elle comprend très bien. Maintenant, Mme Freeland n'est pas ministre de l'Habitation. Alors là, on a un nouveau ministre de l'Habitation fédéral. C'est le temps de montrer son ouverture à accélérer les logements.
L'autre chose qui tracasse pas mal les gens, là, on fait des annonces, comme hier, là, pour des entreprises qui viennent investir au Québec. Puis, on sait pas la part du fédéral, là, ça a l'air que c'est pas attaché. Québec, je pense que c'est 150 millions. Les gens regardent ça, là, puis je vais prendre des exemples extrêmes. Volkswagen en Ontario, 16 milliards du fédéral. 16 milliards. Québec, là, c'est du 50-50 avec le fédéral, la part du public. Monsieur Legault dit, on n'est pas cave, c'est parce que c'est payant, puis on a un retour sur nos investissements. L'usine à 150 millions d'hier, là, vous prévoyez récupérer combien?
Bon, votre question est très large, mais je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Okay. Et on va exclure Volkswagen, qui est un cas spécial où le Canada est en compétition avec les États-Unis qui ont le Inflation Reduction Act. Puis oui, il y a plus de subventions dans un dossier comme Volkswagen qu'il pourrait y en avoir dans d'autres dossiers. Mais en général, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral vont financer jusqu'à 50% des dépenses en capital d'un projet. Donc 25 fédéral, 25 provincial. 25 le Québec, 25 Ottawa. En général, 50 % des dépenses pour réaliser l'usine, les dépenses en capital. Et on se repaye avec les impôts sur les entreprises, le fonds de services de santé, les impôts que les travailleurs vont payer. Donc, on fait des calculs, on investit au départ 25% du projet, puis durant toute la vie du projet, on a des retombées. On fait des calculs et généralement, on récupère notre argent.
Vous récupérez ou vous faites des gains? Ce que je veux dire, sur le 150 millions, vous faites combien?
On fait des gains. On va faire des gains qui vont être supérieurs au coût de financement du gouvernement. Le gouvernement, présentement, se finance à 4,25% sur 10 ans. Alors, il faut que le rendement du gouvernement du Québec soit supérieur à 4,25% sur 10 ans. OK, notre coût marginal. Parce que l'argent qu'on leur donne, on l'emprunte à 4,25%.
OK, mais vous projetez, vous présumez que les salaires vont être ça, vous présumez qu'eux vont créer tant d'emplois.
Ouais, il y a des investissements réels, là. C'est pas juste des projections. Il y a des investissements, il y a des travailleurs. Mais il y a des calculs économétriques, fiscaux qui sont faits, des hypothèses. Et puis, en général, le gouvernement du Québec, puis chaque dossier est différent.
Avez-vous déjà perdu de l'argent dans des projets?
Bien sûr. Bien sûr. Lorsqu'on fait des investissements privés, par exemple, vous avez toujours des projets qui vont extrêmement bien, des projets qui vont moyen, puis des projets qui vont pas bien.
La perception qu'on a, sans doute à tort, là, c'est qu'on a affaire à des multinationales, disons, qui s'attaquent aux mamelles de l'État, puis qui magasinent, puis qui font du chantage, puis si tu veux m'avoir, ça va être tant de millions, sinon le Wisconsin va me prendre, sinon tel pays va me prendre. On est embarqué dans ce jeu-là, là. Puis je suis pas marxiste, là, mais ça fait du capitalisme sauvage un peu aux frais des contribuables.
Mais d'abord, prenons le cas de la filière batterie. C'est clair que la Corée du Sud a une expertise, et eux peuvent construire des usines partout dans le monde. Pourquoi ils viennent au Québec? Parce que nous aussi, on a une expertise. L'électricité, les minéraux critiques et stratégiques, la qualité de la main-d'œuvre, les infrastructures. Ces usines-là, ça prend des infrastructures publiques. L'autre chose, c'est que on construit un nouveau secteur stratégique au Québec. On a 5 secteurs stratégiques au Québec. La filière batterie, c'est un nouveau. C'est comme on passe de 4 secteurs stratégiques à 5, fait que c'est extrêmement important, puis c'est intégré, là. On part de la mine jusqu'à la batterie. Okay. Et donc, une des raisons qui viennent, c'est parce qu'on a la filière batterie du début à la fin.
Là, le temps file. J'ai tellement de questions.
Moi, j'ai du temps. Continuez. J'ai du temps. Je suis là pour vous.
Votre collègue Fitzgibbon a annoncé 11 entreprises, projets d'entreprises pour 1000 mégawatts.
Oui.
Là, j'imagine qu'on finançait à peu près tous ces projets-là aussi. Là, c'est pas juste des entreprises privées qui vont investir à 100% leur cash, là. Ça va être...
Mais je vous ai donné une ligne directrice tout à l'heure. 25% des dépenses en capital, on se rembourse, on rencontre le
les 1000 mégawatts, là. Oui. Est-ce qu'on les a ou s'il faut les produire?
Les 1000 mégawatts, on les a. Si on les a accordés, on les a.
Ou on va les avoir?
Ben là, on fait toujours des projections.
Moi, ce que j'entends, là, c'est qu'on donne beaucoup... On alloue des mégawatts, mais là, on va se ramasser dans un débat pas pour rien, là, qu'on parle un peu du nucléaire. C'est Hydro-Québec, là, va devoir construire, va devoir trouver des nouvelles sources d'énergie.
Mais lorsqu'on décarbone une économie, c'est certain que ça va prendre plus d'énergie, plus d'électricité. Et oui, il y a des besoins additionnels, mais pour ces 1000 mégawatts-là spécifiques, c'est vraiment pas mon dossier.
Puis, non, je sais.
Pierre fait un bon travail, mais à ma connaissance, bien sûr qu'on l'a, puisqu'on les accorde.
Pas de chèque, pas d'élection.
Une indexation du régime fiscal à 6,5% en 2023, une inflation qui va avoisiner 3,5%. Je vous remercie beaucoup. C'est-tu votre façon de finir l'entrevue?
Pas
ça
loin,
veut dire
mais
que j'ai terminé?
Presque, mais vous savez... Je sais qu'on fait bien des blagues, mais Maurice donne à sa province. Maurice donne un petit peu moins cette année à sa province.
Mais nous, on est le gouvernement. Puis un des gouvernements, parce qu'il me reste à vérifier là, la situation de la fiscalité en Alberta, là, puis les baisses d'impôts, tout ça, qui en a fait le plus pour les citoyens. Je répète, là, présentement en vigueur, plafonnement des tarifs à 3%, un nouveau crédit d'impôt crédit d'impôt qui est passé de 400 à 2000 $ pour les aînés vulnérables de plus de 70 ans et la baisse d'impôt qui va aider l'économie à long terme.
J'avais oublié une question.
Allez-y.
Vous êtes le ministre des Nordiques.
Oui.
Dossier pas mal fermé, là.
C'est-à-dire que...
au cas où vous le sachiez pas, Pierre-Carl Péladeau était ici la semaine passée, puis il nous a expliqué que...
Mais j'ai entendu ça.
Bon.
J'ai entendu ça.
Fait que, êtes-vous toujours le Médis des Nordiques?
Mais moi, ce que j'ai expliqué à M. Bettman, et M. Daly, que j'ai rencontré à quelques reprises, c'est que le Québec a changé. On a des finances publiques saines, une cote de crédit AA, des entreprises dynamiques. Regardez le TSX 60, les grandes entreprises québécoises. Le Québec a changé. Un jour, s'il y a une opportunité, nous allons répondre présent. On a un amphithéâtre, on a des infrastructures. En attendant...
Mais il n'y a pas d'opportunité, là. Ils vont pas
présentement, il n'y en a pas.
Okay. Okay?
Parce que les sénateurs ont été vendus, puis il y avait une clause que l'équipe devait rester à Ottawa. Mais lorsque Atlanta a déménagé à Winnipeg, l'offre est venue un vendredi soir, puis ça s'est réglé le dimanche. Présentement, ce sur quoi je travaille, c'est que Québec est une ville des ligues majeures avec un amphithéâtre des ligues majeures. Fait qu'on travaille pour avoir des événements reliés au hockey des ligues majeures.
OK, mais ils sont en train de me dire, si c'est pas M. Péladeau, ça peut être un autre.
Bien, M. Péladeau fait partie de la solution, là. Ils ont un contrat de gestion avec Québecor. Et puis, on travaille avec eux. Et puis, je le répète, Québec est une ville des ligues majeures. On a des infrastructures des ligues majeures. On veut du hockey des ligues majeures. Puis, en attendant, on a gagné la Coupe Memorial, les Remparts, un travail exceptionnel.
M. Girard, merci d'être venu ce matin.
Merci beaucoup.
Éric Girard est le ministre des Finances.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Le temps chaud humide se poursuit. Probablement, va nous dire Gilles, jusqu'à vendredi, ce qui fait quand même des records de chaleur qui ont été battus. On parle beaucoup du sud du Québec, mais il y a des températures élevées sur l'ensemble du territoire. Gilles, bonjour.
Bonjour, Paul.
Alors, peut-être revenir rapidement sur hier, là, parce que il y a quand même des températures élevées qui ont été enregistrées sur l'ensemble du Québec.
Oui, parce que si ça commençait avant hier, là, lundi, là, avec canicule, avec un premier 30 degrés au sud de Montréal, ben hier, c'était pas mal partout, là, de la baie James là, jusqu'au Saguenay, Québec, Chibougamau. On a eu des records, ça a fondu partout. Ça a été même hier la journée la plus chaude jamais relevée au Québec. On a eu 36 degrés hier observés, pas n'importe où, à Waskaganish. On est à la baie James, imagine. Ça faisait plus chaud à la baie James qu'à Miami hier. Même à Punta Cana, faisait 33, donc plus chaud au Québec, là, puis dans le nord du Québec aussi, c'est pas normal, surtout en plein été. On peut avoir des belles variations en hiver, des fois des bains bizarres avec de l'air plus chaud, là, sur le nord de Abitibi, alors qu'à Montréal, c'est plus froid, ça peut s'expliquer, mais pas en été. Les canicules, oui, on en connaît en automne, mais des canicules qui s'étirent, là, de Toronto, là, jusqu'à Québec, parce que l'Ontario aussi y goûte, là, présentement, des avertissements de chaleur qui couvrent pratiquement tout l'est de l'Ontario, tout l'ouest du Québec, c'est quasiment 20 millions de Canadiens là, qui connaissent encore aujourd'hui des conditions tropicales. Les records aussi qu'on a battus là, hier, là, c'est des records de 115 ans, 112 ans, Trois-Rivières, Shawinigan. Il y a des températures observées là depuis 1913, puis il n'y a jamais fait aussi chaud, 32, 33. Aujourd'hui, Montréal, c'est un copier-coller. Là. Hier, 32, 31, avec un humidex de 41, c'est la même chose. Je regardais ce matin là dans les... la haute pression dans la masse d'air où on avait les mêmes conditions d'aujourd'hui. Là, on était au Tennessee, Michigan, c'est à peu près ça qu'on a relevé. Donc aujourd'hui, 32 puis 41, on va souffrir encore, mais c'est la dernière. Hein? Demain, jeudi, là, la transition va se faire lentement, puis attendez-vous à ce qu'on entende du boum-boum, l'orage, là, parce que quand on change de régime comme ça, souvent, on le voit. Et vous allez voir, dimanche, lundi, on revient à des températures normales. Là, le souvenir de la canicule, ça va être vraiment... ça va s'évanouir, ça va être comme un souvenir d'un resort, la Santa Banana, là, avec un... on s'en souvient plus bien. Ben, les Québécois haïssent la chaleur, mais on aime bien ça, avoir eu chaud.
Ouais, mais disons que pour le reste de la semaine, je comprends que demain, des averses, probablement, mais c'est à partir du week-end que vraiment la transition va se faire, là.
Ah ouais, oui. Dimanche, lundi, okay. Là, attendez-vous, ça revient à 20-21, puis la chaleur, on n'en voit plus sous le radar là ensuite. Là. Surtout la semaine prochaine, on va entendre parler, inquiétez-vous pas, d'ouragan, parce qu'il y en a un puissant là qui monte vers le nord. On va sûrement avoir l'occasion d'en parler, parce qu'on arrive dans la saison, le pic là, de la saison des ouragans, c'est dans 3 jours, 4 jours, puis cette année, bon, non seulement, là, on vient de le mentionner, là, l'Institut Copernic en Grande-Bretagne vient de déclarer 2023, l'année la plus chaude, mais ça commence du côté des océans. La Terre, c'est 2/3 d'eau, ça fait que moi, je m'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe sur les océans que sur la Terre ces temps-ci. Là.
Merci beaucoup. Gilles Briand, qui est météorologue, il mentionnait le rapport du groupe de l'Observatoire en fait européen Copernicus, qui dit que l'été qu'on a traversé, donc le mois de juin, juillet, août, c'est l'été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Ce qui a fait dire au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, que ce qu'on appelle l'effondrement climatique a commencé. Je sais qu'il y en a qui vont dire que les gens sont éco-anxieux, qu'il a déjà fait chaud. Tout ça est vrai, mais on remarque 3 ou 4 phénomènes importants, c'est-à-dire des températures extrêmes qui se prolongent. Des villes comme au Japon, par exemple, qui ont connu des températures de 30 degrés plus pendant de longues périodes. Encore ce matin, l'Espagne qui fait face à des pluies abondantes après avoir connu des périodes très chaudes. Tout ça pour dire que ces manifestations extrêmes entraînent même des changements, des déplacements de la faune, par exemple, des animaux qui apparaissent dans des secteurs où normalement ils ne devraient pas être là. Il y avait un reportage à CNN hier sur les flamants roses qui rebondissent dans des secteurs où ils n'ont jamais l'habitude de se trouver. Ce qui m'amène à vous parler des écoles. Il y a des écoles qui ferment, qui ont fermé hier, qui ferment aujourd'hui. On peut penser à l'Outaouais, Saguenay également. Et il y a des gens qui ont été un peu surpris d'apprendre que les cours étaient suspendus à l'école Paul Arsenault de l'Assomption. Parce que, paraît-il, le plancher ou les planchers de l'école sont extrêmement glissants. Le directeur général du Centre de services scolaires est avec nous, Jean-François Collard. Monsieur Collard, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, alors expliquez-nous en quoi les planchers sont glissants à l'école Paul Arsenault.
Ben d'abord, vous avez raison, et les parents également ont raison d'être étonnés de la situation. On l'était tout autant. En fait, c'est un principe un peu connu l'été. Lorsqu'il y a un changement de température important, dans ce cas-ci, c'est la dalle de béton des planchers de l'école qui est beaucoup plus fraîche que l'air ambiant. Et on se retrouve un peu dans une conjoncture parfaite là, où la différence de température entre la dalle du plancher, la chaleur ambiante et l'humidité font en sorte qu'on se retrouve avec des planchers dans l'école au premier étage, ceci dit, qui, à toute fin pratique, ressemble à des planchers comme s'il y avait un dégât d'eau, tellement il y a d'humidité qui se forme. Et ben évidemment, les revêtements font en sorte que céramique, vinyle, ça devient extrêmement glissant. Et dans le contexte, on a évalué qu'il était préférable de fermer l'école pour ce matin.
OK, quand vous me dites que c'est glissant, là, j'essaie de voir ce que ça veut dire. Là. On rentre dans la classe, puis c'est comme une patinoire?
Dans les classes, les corridors également. En fait, c'est l'équipe en place de l'équipe de direction hier. On a déployé également nos équipes de ressources matérielles pour aller évaluer la situation. Bien qu'on essaie d'éponger l'eau, parce qu'effectivement, c'est une fine couche d'eau, mais il y en a quand même suffisamment pour faire en sorte que lorsqu'on se déplace, ben effectivement, les pieds peuvent, si vous me prêtez l'expression bien connue, les pieds peuvent nous partir plus facilement. Et il y en a suffisamment et partout au premier étage pour rendre la situation problématique pour les déplacements autant du personnel que des élèves.
OK. Donc, ça touche combien de classes dans l'école?
Ah, toutes les classes du premier, du rez-de-chaussée, puisque c'est le contact de la dalle de béton. Le deuxième n'est pas vraiment touché par ça. La température est la même, mais il n'y a pas cet effet de condensation qu'on observe là, au premier étage de l'école.
OK, donc c'était pas possible de permettre les cours à partir du deuxième étage?
On l'a évalué maintenant, il y a tellement d'élèves, c'est quand même une école de 1500 élèves, ça aurait été extrêmement complexe. Premièrement, il faut, dans la majorité des cas, passer par les corridors du premier étage, l'entrée se fait au premier étage.
Est-ce que c'est la première fois qu'une situation comme ça se produit à l'école?
Ah oui, tout à fait. Pourtant, c'est pas une école qui est récente. On a déjà eu des chaleurs importantes au Québec, mais c'est effectivement la première fois dans toutes nos écoles d'ailleurs qu'on voit une situation exceptionnelle comme celle-là. Là, quand je vous parlais d'une conjoncture presque parfaite pour un événement comme ça, effectivement, on est dans du jamais vu chez nous aussi.
OK. Dernière question. Si l'enjeu était strictement la canicule, donc le degré de température à l'intérieur des classes, est-ce que l'école aurait été ouverte? Autrement dit, s'il n'y a pas eu l'enjeu du plancher glissant, là, est-ce que ce serait ouvert aujourd'hui?
Exact, comme l'ensemble des établissements okay. du centre de services scolaires.
Parfait, merci, M. Collard. Jean-François Collard est le directeur général du Centre de services scolaires des affluents. C'est sûr que tu fais le saut. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires de parents qui disent que même les pupitres se mettent à glisser dans les classes en question. Puis qu'effectivement, ils ont jamais vu ça. On va parler maintenant avec Fabrice de Pierrebeau. Je vous le disais hier matin, il est en Ukraine et là, il est tout près de la ligne de front. Fabrice, d'abord, bonjour. Où es-tu précisément?
Je suis en route pour Konstantinivka. C'est une petite ville qui est juste dans les faubourgs de Bakhmut. Et il vient d'avoir un bombardement, un missile S-300 qui serait tombé sur le marché, le petit marché de cette petite ville. Et il y aurait eu au moins plusieurs blessés et on est en direction... Mais cette nuit, il y a eu aussi une autre vague de missiles, Paul. Certains avaient pour cible Kiev. Ils ont tous été abattus. Mais en revanche, il y a des drones kamikazes qui sont tombés encore une fois dans le sud du pays, autour de la ville portuaire d'Odessa, qui est une ville stratégique parce que c'est de là que les Ukrainiens exportent leurs céréales vers le monde entier.
Et là, tu accompagnes un convoi humanitaire qui se spécialise justement dans des opérations sur les lignes de front.
Voilà, ce matin, je reviens tout juste d'une opération de distribution de nourriture dans une petite ville qui s'appelle Siviers. C'est une ville qui avait environ 11 à 12 000 habitants avant la guerre. Et 90% des habitants, Paul, ont fui ou sont morts depuis. Et donc, j'ai participé à un convoi de 3 véhicules. C'est une ONG internationale qui s'appelle GEM, GEM. Qui est financé pour la petite histoire par Howard Buffett, le milliardaire américain. Et eux sont spécialisés effectivement pour aller porter de l'assistance, donc de la nourriture, de l'eau, des biens de première nécessité dans des villages qui sont sur la ligne de front. Alors, inutile de dire que ça se fait dans des conditions assez périlleuses. On est parti avec un convoi de 3 véhicules, dont un qui est blindé. Et ils sont très bien organisés. Ils ont des semi-remorques, ils ont un dépôt près de Kiev. Et tous les jours, il y a des semi-remorques qui partent en direction des principales zones arrière des lignes de front. Et à partir de là, ce sont des petits véhicules, des équipes très mobiles, avec des chauffeurs aux nerfs d'acier, qui s'en vont dans ces villages pour distribuer de la nourriture. Évidemment, c'est très attendu, ce sont des boîtes. Nous, ce matin, on en a distribué 700. Et quand on arrive dans Siviers, d'abord, faut emprunter des tours et des détours. En temps normal, je dirais que c'est à peu près 20 minutes depuis Kramatorsk ou Sloviansk par la Siviers. Là, ce matin, ça nous a pris une heure, parce qu'il y a beaucoup de ponts qui sont détruits. Il faut faire des détours dans des chemins vraiment chaotiques, dans de la forêt. Après, il faut éviter les zones où on peut être à portée de bombardement des Russes. Et on est arrivé dans cette ville, comme je disais hier, véritablement fantôme. Et là, on a distribué finalement ces boîtes dans des points relais. C'est très bien organisé. Les gens savent qu'aujourd'hui, il va y avoir des boîtes d'aide qui vont arriver. Donc, on a distribué ça dans une petite épicerie. Puis chez des gens aussi qui acceptent de stocker ces boîtes. Et à partir de là, les voisins viennent. Et c'est pour savoir que les Russes prennent en étau cette ville-là. Il y a juste un accès par l'ouest. Les Russes sont à peu près à 3 à 5 kilomètres tout autour, en tenaille quasiment. Il ne reste plus qu'une porte de sortie. Donc, ça fait en sorte que dès la fin de la matinée, c'est toujours récurrent, il y a des bombardements. Puis il y a aussi le bruit des tirs de mortier des Ukrainiens. Donc, à un moment donné, on ne sait plus trop si c'est des explosions entrantes ou sortantes. Et là, on prend des véhicules blindés, puis on s'en va donc distribuer ces boîtes aux gens. Puis évidemment, la question que tout le monde se pose, puis qu'on me pose à chaque fois et que tu dois te poser, c'est pourquoi reste-t-il là?
Ben, j'allais te poser la question, parce que tu disais, c'est une ville normalement de 10 000, 11 000 citoyens. Il reste 1000 habitants. Et ça fait un an et demi qu'ils font l'objet de bombardements. Pourquoi est-ce qu'ils demeurent dans la ville?
Et il demeure dans une ville, Paul, qui est à moitié détruite. L'hôpital est détruit. Il reste plus qu'une épicerie. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. J'ai rencontré le chef de l'administration militaire. Il me dit tous les jours, je vais voir les gens, leur dire, partez. Ils veulent pas partir parce que c'est leur village. Puis là, moi, j'ai parlé à des gens. Ils m'ont dit, mais avez-vous de l'argent pour nous? Parce qu'il faut de l'argent pour partir. Ils habitent dans des maisons qui sont vraiment misérables. Sont des gens qui sont dans des cabines d'une extrême pauvreté ou des gens âgés ou des gens malades. Ils ne savent pas où aller. Ils préfèrent rester là, probablement jusqu'au dernier moment. La seule chose, c'est qu'il n'y a plus d'enfants, quoi. Les enfants, ils ont réussi à les faire évacuer tous, mais il reste un médecin et deux infirmières qui ont décidé de rester dans ce petit village pour, enfin, ce qui est devenu l'équivalent d'un petit village pour soigner les gens. Et eux, ils attendent juste l'arrivée des convois humanitaires. Et il n'y a que comme ça, il n'y a que grâce à ces ONG, ces chauffeurs un peu téméraires, qu'ils arrivent à survivre, quoi.
Fabrice, merci beaucoup pour ce portrait très concret, très réaliste. Et toujours la recommandation d'usage, la prudence dans tes déplacements. Fabrice de Pierrebourg, qui se trouve en direct de l'Ukraine ce matin, tout près de la ligne de front. Secteur santé, on va parler d'Ozempic. Pourquoi? Parce que, on le sait, il y a potentiellement rupture de stock ou en tout cas difficulté d'approvisionnement pour beaucoup de patients en raison de la popularité de l'Ozempic. Et la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on nous disait, la fin du mois d'août, le début septembre, ce sera assez difficile, notamment pour les patients qui utilisent, et semble-t-il que c'est la majorité d'entre eux, là, la formule 1 mg. Et là, il y a des enjeux que je vais soulever avec Benoît Morin, qui est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Bonjour, Benoît.
Bonjour, Paul.
Bon, d'abord, est-ce qu'il y a véritablement rupture de stock actuellement pour l'Ozempic?
Ben pour le 1 mg, c'est difficile, là. C'est peut-être pas partout au Québec en même temps, mais effectivement, on a des difficultés d'approvisionnement. Puis les autres forces sont en allocation, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on contrôle les quantités commandées pour être sûr que c'est pas les mêmes qui commandent tout ce qui reste. Donc oui, on est dedans, là. On commence à être dedans.
Puis est-ce que la dose de 1 mg, c'est la dose la plus prescrite?
Oui, définitivement.
OK. Mais il y a des formats autres qui existent, là, qui est 0.25 puis 0.5.
Ben, c'est-à-dire que le 1 mg vient avec 4 doses pour un mois. Donc, on a 4 mg dans un stylo. C'est lui qui pose problème actuellement. On a d'autres qui a 2 mg par stylo. Donc, si je veux couvrir mon mois, ça me prend 2 stylos. Parce que j'en ai la moitié moins dans chacun des stylos, évidemment. Donc, je peux remplacer ça. Le problème qu'on a, c'est que c'est le même prix, un 2 mg ou un 4 mg. Donc, si je veux faire mon mois, ça va coûter deux fois plus cher à couvrir le mois avec le médicament.
OK. Mais là, il y a deux types de patients. Il y a ceux qui paient de leur poche et ceux où c'est couvert par soit le régime privé ou la RAMQ. Ça veut dire que, puis là, tu comprends, on peut pas faire autrement de se dire, est-ce que c'est créé artificiellement, puis dans le fond, ils font plus d'argent parce que ça coûte deux fois plus cher?
Ben, on peut se poser la question, mais dans ce genre de situation-là, là, par expérience, là, il y a des ventes qui sont perdues, là, avec raison, là. Quelqu'un qui paye de sa poche, qui utilise Ozempic, puis qui est pas éligible à la mention d'exception, c'est pas pour un diabète de type 2, mais pour un autre problème de santé ou pour traiter de l'obésité morbide, par exemple, lui, c'est pas couvert. Donc, il va passer d'à peu près 350 par mois à 700, je le dis à peu près, là, mais c'est autour de ça, 700 $ par mois. Fait qu'il y a des gens qui pourront pas se le procurer, malheureusement, ou qui vont réduire le dosage ou qui vont demander une alternative, parce qu'il y en a sur le marché des alternatives aussi.
Quelles sont les alternatives, justement?
Ben, il y a Victoza, il y a Trulicity. Là, je le dis, mais ça demande quand même une analyse parce que c'est dans la même classe, c'est dans la même famille, donc on a des effets de classe, mais c'est quand même pas l'idéal de changer. Je dirais que l'idéal, c'est de continuer avec le même produit, quitte à payer plus cher, mais dans des situations où il y en aurait pu, parce que souvent, il y a un effet cascade. Là j'ai encore du 2 mg par stylo, mais ça va s'épuiser fort probablement si la pénurie dure trop longtemps, donc on risque d'en manquer, puis on n'aura pas le choix de changer de classe pour les gens pour qui c'est une nécessité ou qui veulent absolument poursuivre le traitement. Donc, on va changer de molécules dans la même classe. Victoza, Trulicity, bon, il y en a d'autres qui sont moins accessibles au Canada, mais si les gens se renseignent, ils vont voir qu'il y en a d'autres qui existent aussi. Mais on n'est pas mal pris dans le sens qu'on n'a plus d'alternative, mais ça va quand même être compliqué, puis ça va perturber le traitement de ces gens-là. Puis Puis l'autre point, Paul, ça ne donne rien d'aller à la pharmacie d'avance puis essayer d'en trouver. Le pharmacien ne fera pas ça, ne renouvellera pas d'avance, ne donnera pas des plus grandes quantités. Il est lui-même en allocation, donc on va gérer ça au fur et à mesure où les patients vont être dus pour le renouvellement. On va voir comment la situation de chaque pharmacie est rendue pour essayer de trouver le produit. Donc, ça ne donne rien d'appeler partout, ça ne donne rien d'essayer d'en avoir plus ou plus rapidement. Donc.
Et est-ce que il y a comme un horizon, c'est une pénurie ou une rupture de stock de 2 semaines, 2 mois, 6 mois, on ne sait pas?
Ben difficile à dire, parce que la compagnie l'a annoncé pas mal d'avance, ce qui est bien là, parce que normalement on le sait le jour même. Là on a été averti qu'il y avait une grande fluctuation dans la production, puis les demandes un peu partout à travers le monde. On parle pas d'une rupture complète permanente à long terme là, donc des fluctuations. Moi je m'attends à ce qu'on soit réapprovisionné de temps en temps, mais à quel rythme, difficile à dire, puis dans quelle priorité au Québec on va être réapprovisionné ou au Canada par rapport au reste du monde, c'est une bonne question, mais je m'attends pas à quelque chose de durable. Je pense que la compagnie fait tout ce qu'elle peut pour essayer de satisfaire à la demande pour pas perdre ce marché-là hein, en même temps là, c'est, et pour s'assurer que les patients soient bien traités aussi, mais je m'attends à beaucoup de fluctuations pour les prochains mois, mais pas une pénurie permanente de 3 mois là.
Merci Benoît, bonne journée.
Merci Paul.
Au revoir. Benoît Morin, qui est le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Juste noter quand même que c'est 2 fois plus cher. Là. Si vous voulez retrouver le dosage qui vous est prescrit de 1 mg, c'est 2 stylos. Puis le traitement qui coûte normalement 300-350, pour le mois, va vous coûter peut-être 600-700. Et là, il y a pas mal de gens qui risquent de décrocher, surtout pour les gens qui n'ont pas le remboursement par la compagnie d'assurance ou par la RAMQ. Puis on sait que les critères ont été resserrés. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent en voie d'approbation par Santé Canada, ou en tout cas, c'est une question peut-être de semaine, mais c'est un produit extrêmement populaire pour la perte de poids, pas juste pour combattre le diabète de type 2, mais que je voyais un reportage il y a quoi, 2 semaines, sur ce que ça représente pour le Danemark. C'est-à-dire, c'est comme, ils veulent sortir le fabricant de l'étude du pouvoir intérieur, du produit intérieur brut, parce que c'est trop gros, c'est trop gros. C'est tellement populaire, et on est convaincu que c'est un produit qui va être en vente, là, mais des chiffres records. C'est une mine d'or. Alors, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas faire autrement de se dire, quand ça coûte 2 fois plus cher, ils font-tu exprès, comme ils ont fait avec les vaccins de COVID. Je le disais plus tôt ce matin, un jugement en Afrique du Sud qui montre que c'est 30-40% plus cher qui ont été facturés par rapport à la société américaine à des pays d'Afrique qui pourtant ont quand même pas mal moins d'argent.
C'est 23.